Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h08 sur RMC, ravi de vous retrouver pour les grandes gueules du sport en direct depuis 9h ce matin jusqu'à midi avec Marion Bartoli, David Douillet et Simon Dutin, les grandes gueules du sport qui sont à retrouver également tous les jours en podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat sur la Ligue 1 dès maintenant sur l'appli RMC dans 30 minutes. La punchline GG avec cet affrontement à distance entre l'UCI et l'équipe Visma au sujet des oreillettes dans le vélo alors que débute la Vuelta. Et puis dans une heure, l'OM version 2 Zerbi sera au menu des GG. Est-ce qu'il a bien fait de rejoindre l'OM 32-16 pour nous rejoindre. Sans oublier, vous le savez, ce rendez-vous incontournable, 11h45, les GG contre-attaque. Les GG qui prennent les commandes de l'émission en proposant un débat et vous pouvez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Le grand gagnant lancera le débat à 11h45. C'est l'heure de faire vos propositions, messieurs, dames. On commence par toi, Marion. Quelle est ta proposition de débat ?
Alors, ma proposition, ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure David avec l'auditeur, c'est le prix exorbitant de l'abonnement pour pouvoir avoir le droit d'éventuellement regarder un match de Ligue 1. Je trouve ça absolument hallucinant et inadmissible.
D'accord. Bon, voilà. Au moins, c'est clair et je pense que ça peut cartonner, hein, sur les réseaux. On verra ça. David.
Bah, je reste toujours dans la même filière, puisque on est quand même dans l'actu, en ce début de L1. La baisse des droits télé, est-ce le début de la chute de son président et de certains clubs ?
Vincent Labrune, peut-il rester ?
Exactement.
C'est un peu ça aussi la question. Ok.
Exactement.
Simon.
Moi, j'ai peur que ça parasite un petit peu le débat qu'on s'apprête à avoir. Mais j'ai noté, comme beaucoup et certains de nos confrères qui ont fait des papiers sur la question, la réussite désormais de la France dans les sports collectifs. Voilà. Et moi, je n'oublie pas que quand j'étais gamin, on était bien souvent pas invités. Et donc voilà, la France qui domine dans les sports co. Je me demande si c'est le fruit d'un vrai, désormais, savoir-faire, d'une vraie culture, ou si c'est une question de génération même au pluriel, mais de génération.
On a trois bons débats. Vous allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour voter tout de suite. Le résultat à 11h45.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Ils sont nombreux, les athlètes français, à avoir vécu un moment unique grâce aux supporters des Bleus, des Français, qui se sont transformés, comme disait Tony Estanguet lors de la cérémonie de clôture, d'un peuple d'irréductibles râleurs en supporters déchaînés. L'esprit olympique qui a soufflé sur la France et a peut-être permis aux athlètes de briller en battant le record historique de médailles. Alors, est-ce qu'on est devenu une nation de sport ? Dans le coin droit, la team, oui, composée de Marion Bartoli et Simon Dutin. Dans le coin gauche, la team non, seul face au reste du monde, mais ça ne lui fait pas peur, il aime ça.
Non, ça ne l'a jamais impressionné.
Avant de lancer les hostilités, les amis, on accueille Anthony Reich qui a suivi les Jeux pour RMC. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Salut Anthony.
Les Jeux Olympiques à domicile qui ont créé vraiment un engouement sans précédent qu'a porté donc les athlètes tricolores.
Oui, et évidemment sur le plan sportif tout d'abord, ça a eu un impact, hein, puisque le bilan de la délégation française est historique. Tu le disais François, 64 médailles, le record des Jeux de Pékin est largement battu. 16 titres olympiques, c'est aussi un record. 26 médailles d'argent et 22 de bronze. La France a fini dans le top 5 du tableau des médailles. Ces performances s'expliquent peut-être par le fameux home advantage, le fait d'être à domicile, et puis aussi par cet engouement incroyable du public derrière nos athlètes. Dès le début des Jeux, on a vu des images de ferveur qui rappelaient France 98. Les Français vivaient au rythme des finales du jour, malgré le travail. Ces dizaines de milliers de personnes qui chaque jour se rassemblaient au Club France pour suivre les compétitions et fêter les médaillés. Ces instants aussi où le rythme des Jeux s'est arrêté lorsqu'un certain Léon Marchand nageait. Et puis il y a eu toutes ces familles venues découvrir les Jeux Olympiques dans les stades et qui parfois ne connaissaient pas forcément les règles du golf, du basket 3-3 ou encore du tir à l'arc. Une génération va certainement grandir avec cette empreinte olympique en tête et c'est peut-être là la naissance d'une nation animée par le sport.
Merci beaucoup Anthony d'être passé dans les GG. Le sondage sur le compte X des Grandes Gueules du Sport pour l'instant, mais la team non représentée par David Douillet largement en tête, 72%
oh
non, nous ne sommes
non.
pas une nation de sport. Oui, nous sommes devenus une nation de sport à 28%.
Donc je suis déçue.
On va donner la parole à Simon et ensuite Marion, tu pourras l'aider également pour faire remonter ce petit chiffre.
Oui, alors je suis pas sûr de défendre le oui jusqu'à tu vois parce que tout dépend de ce que tu entends par là.
Bah, comme l'a dit Anthony, il y a deux choses
hein, sur le voilà le plan des résultats et du sport de très haut niveau, et là à ce titre-là, force est de constater que la France est devenue une des nations qui a le plus de réussite dans toutes les compétitions, que ce soit les sports co, les sports individuels. Il y a eu notamment pour appuyer ça une progression ces dernières années des résultats des athlètes femmes qui ont beaucoup compté dans les classements qui sont opérés. Il y a le site de référence greatestsportingnation.com qui établit donc ce classement sur un barème qu'on peut discuter aussi selon l'importance, ouais, la popularité de certains sports. Donc il y a une prime qui est donnée aux sports collectifs, aux sports qui ont le plus de retentissement. Maintenant, la France est-elle devenue un pays de sport? Alors, grâce à la réussite de ces Jeux Olympiques, je ne pense pas. Moi, je me souviens que c'est Manoudou, justement, Florent Manoudou, qui avait dit, qu'on n'était pas un pays de sport, et avant les Jeux, que le gouvernement aurait beau faire tout ce qu'il voulait, ça, c'était pas prêt de changer. Et encore une fois, il y a des arguments très objectifs comme...
Il n'y aura pas un avant et un après JO.
Je ne pense pas. Anthony rappelait que voilà, le home advantage, le fait de jouer à la maison, ça a quand même certains avantages. Il reste quand même voilà tous ces dossiers, la place du sport à l'école, quand ton président de la République t'invite à faire une demi-heure de sport par jour, comme si tu vois les gens étaient assez stupides pour ne pas savoir que ça peut faire du bien à la santé, que c'est bon. Je pense qu'on a encore du retard. Maintenant, oui, on a prouvé que même Anthony le rappelait, sur des sports qu'on n'a pas l'habitude de regarder, qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, dont on ne connaît parfois même pas les règles, on était capable de s'enthousiasmer. Voilà, nous les Gaulois, voilà, de faire du bruit, d'encourager et de se passionner pour la compétition, quelle qu'elle soit. Donc voilà, il y a de plus en plus de vélos dans les rues, il y a de plus en plus de gens qui courent partout dans les rues de Paris et partout en France. Donc ça va dans le bon sens. Maintenant, je pense pas que ce soit ces jeux qui nous aient transformés subitement
C'est un petit
sport.
Oui, nous sommes devenus une nation de sport. Je ne sais pas si tu vas aider beaucoup.
On l'est devenu ces dernières années, je pense, ces 20 dernières années. On a énormément progressé, mais je ne pense pas que ce soit les jeux qui étaient le.
Alors, tu vois, finalement, décisif. Marion, tu vas être presque
tout
quasi seul.
Mais c'est pas grave. en fait, je pense qu'il faut arriver à distinguer plusieurs éléments dans la question. Bon, le premier élément, effectivement, est-ce qu'il y a eu un engouement populaire derrière ces JO? La réponse est un immense oui. Et d'ailleurs, toutes les audiences, en particulier les audiences télévisuelles, le démontrent. Il y a quand même 15 millions de personnes qui ont suivi la course de Léon Marchand sur le 200 mètres 4 nages. Il y a eu plus de 14 millions sur sa médaille d'or aussi au 200 mètres brasse. Il y a eu 11,8 millions de personnes pour le rugby à 7. Il y a eu plus de 13 millions pour le judo. Il y a eu un engouement autour de la fan zone absolument incroyable. Et on l'a vu, on y était tous les jours ensemble avec David. Les gens étaient totalement passionnés pour les Français, pour la réussite du sport français. Que ces Jeux Olympiques là-dessus aient été un immense succès, c'est indéniable. En revanche, effectivement, il y a des problèmes de mise en avant du sport au quotidien, en particulier dans le programme scolaire, que là-dessus la France soit en retard, et en particulier vis-à-vis des pays anglo-saxons, et qu'il y ait un énorme combat à mener pour qu'effectivement le sport soit mis en avant et que ça soit pas entre guillemets une punition d'aller au sport, mais que les jeunes soient heureux d'aller faire du sport, et que donc là-dedans il y ait un réel programme scolaire avec une inclusion des sports dans son programme scolaire, je suis complètement d'accord avec vous. C'est très difficile à J+5, puisque les Jeux Olympiques viennent se terminer il y a 5 jours, de faire une conclusion pour savoir s'il va y avoir un chamboulement profond et majeur, avec une prise de conscience profonde et majeure de l'intégration du sport à l'école. Je sais que le président de la République va faire des annonces aux alentours de la mi-septembre pour effectivement avoir un héritage sportif de ces Jeux Olympiques, pour avoir une société qui soit plus tournée autour du sport, mais ça m'est très difficile de faire un constat à J+5. Qu'en revanche, sur les chiffres qu'on est actuellement et qui sont tangibles, qu'il y ait eu un engouement populaire absolument incroyable, et franchement, tous ici, on les a préparés ces Jeux Olympiques, on était pas certain qu'il y ait cet engouement populaire. Là-dessus, on a été plus qu'agréablement surprise. En tout cas, je vais pas parler pour mes camarades, mais ça a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a profondément effectivement surprise, mais du bon côté, de voir les gens autant se passionner pour nos sportifs. Et quand on voit les jeunes un petit peu réagir comme ça après les Jeux Olympiques, on voit qu'il y a une adhésion à un nouveau sport. Alors, on a beaucoup parlé de tennis de table avec les frères Lebrun qui sont très jeunes et qui, je pense, vont driver beaucoup de personnes à finalement se mettre à faire ça. Je pense qu'aussi pour le judo, le sport de David, de voir Teddy Riner performer, de voir l'équipe par équipe performer, ça peut aussi donner des vocations. C'est ce qu'on espère. Mais qu'il y ait un problème de fond général et profond du sport à l'école, ça, je crois qu'on va pas, on peut pas le nier, et c'est un réel problème de société, mais on est j'espère, en tout cas c'est mon cas, que les Jeux Olympiques vont vraiment faire bouger les choses, et cela en profondeur.
David, toi qui as été Marion, ministre du Marion des Sports hein, aussi. Donc,
merci.
Donc non, tu sais de quoi tu parles, évidemment.
Oui, oui, malheureusement. Merci Marion et Simon d'avoir rejoint mon camp.
Non, mais attends, j'étais mesuré dans mes propos quand même, écoute.
Non, mais c'est sympa, j'en attendais pas tant. Les Français ont l'esprit sportif, sont des sportifs. La France n'est pas une nation sportive. Voilà, c'est ça en fait le truc. Aujourd'hui, le résultat des JO 2024... En fait, c'est le résultat d'une seule décision qu'a pris un homme dans les années 60, c'est le général de Gaulle. Voilà. Et tout tient là-dessus. Et le sport français, qui a été construit dans son architecture par lui, par le colonel Crespin à l'époque, donc la structuration à travers des associations, loi 1901, à travers des fédérations qui se sont structurées, etc., etc., donne le résultat que vous avez aujourd'hui. Et je tiens à souligner que les plus de 5 millions, j'ai pas le chiffre en tête, de bénévoles tiennent le sport français, et c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Il faut quand même le dire haut et fort. Si ces bénévoles ne sont pas là, il n'y a pas de sport en France, et c'est pas normal. Voilà. La première chose, c'est que on n'a pas suffisamment d'infrastructures. Si nous étions une vraie nation sportive, nous serions au niveau de la demande en termes d'infrastructures dont on a besoin, simplement pour combler la demande qui émerge de toute cette architecture qui a été construite dans les années 60. Mais c'est pas suffisant. Il faut rénover nos piscines. Il faut plus de gymnases multifonctions. Il faut plus de stades. Mais en termes de qualité aussi, ça c'est un manque crucial. Ça demande peut-être dizaines de milliards d'investissements. C'est pas rien. Je parle d'investissement parce que si on traduit ça par les bons effets que ça peut avoir sur la santé, on économisera d'autant des dizaines de milliards sur la santé des Français. Pour plusieurs dizaines d'années. Voilà. Il s'agit d'investissement. Il y a un retour sur investissement quand on investit dans le sport. Ça, faut le comprendre. Il faut que nos dirigeants, nos futurs dirigeants le comprennent bien, parce que c'est la vérité. Donc on n'est pas encore une nation de sport. On n'est pas une nation de sport dans notre système éducatif. Marion et Simon l'ont souligné très justement. Aujourd'hui, un gamin qui s'engage dans sa scolarité avec un double projet, celui d'avancer dans ses études et celui d'avancer dans une passion que peut être le sport, mais on pourrait élargir ça à la culture, bien sûr, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour l'aider. Et c'est pas normal. Voilà. Aujourd'hui, ces personnes, lorsque elles sortent du giron familial à un moment donné, parce qu'elles grandissent, n'ont pas les moyens financiers pour correctement se loger, pour correctement se nourrir. Il faut savoir que on a une population de saltimbanques du sport. C'est dramatique. Certains ont fait les derniers JO, certains ont fait les derniers JO de Tokyo aussi, ont été même médaillés et avaient du mal à se loger. Faut quand même le comprendre. On est dans ce pays-là. Donc quand on me dit aujourd'hui que la France est devenue une nation sportive, je dis non, pas encore. Malheureusement, pas encore. Regardez ce que sont obligés de faire certains de nos athlètes de haut niveau et qui ont brillé lors des derniers JO. Il s'agit de de faire leurs études universitaires. Ils sont obligés de partir. Aujourd'hui, tu te pointes dans une université française, tu dis, je fais du sport de haut niveau, on te regarde avec des yeux ronds comme des billes. Et on te dit, monsieur, si vous êtes pas là pour vos partiels, c'est zéro. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui en France. C'est inadmissible. Donc tout ça doit changer, tout ça doit évoluer. Là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui aux manettes. Prenez en considération tout ça, modélisez tout ça, réformez tout ça. Et comme l'a très justement dit Marion, faites que le sport devienne un vrai socle de connaissances au sein de notre système éducatif et qu'il soit valorisé autant que tel. Et aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. On fait du sport juste pour s'aérer, juste pour se détendre, etc. Non. Le sport est un milieu d'apprentissage, est un milieu de compréhension de la société, est un milieu d'évolution entre nous.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est là où les États-Unis l'ont beaucoup plus compris.
Mais bien sûr.
Beaucoup plus compris. Il y a des ponts qui sont beaucoup plus importants entre des sportifs et ensuite, même quand ils veulent rejoindre une vie normale,
ça
ils ont
être
des ponts
place.
Avec des jobs qui leur sont donnés et qui sont beaucoup plus importants.
Bien sûr, mais dès le CP, on doit faire comprendre ça. Alors, heureusement qu'il y a des professeurs des écoles qui sont formidables et qui ont cette fibre sportive et de plus en plus et qui s'inscrivent, mais à titre individuel, dans leurs écoles pour commencer à amorcer ça. Mais ça, c'est un...
Ton chien est d'accord, d'ailleurs.
Oui, mon chien est d'accord,
oui. N'hésite pas à le faire passer à l'antenne, David.
Il est entièrement d'accord.
Il a peut-être un avis très intéressant.
Non, mais je trouve ce qui est intéressant quand même, c'est que là, on est sur un terreau fertile, parce qu'il y a eu une réelle amorce. Il est d'accord avec ce que je dis aussi. Il y a eu une réelle amorce avec ces Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, je vous rappelle quand même, est devenue la meilleure audience de l'histoire de la télévision en France.
Oui.
On a été quand même avec 24,4
millions. Après, la cérémonie d'ouverture, ça rassemble les fans de sport, mais pas que. Hein.
Oui.
C'est très,
oui,
très,
mais je pense
très
qu'il y a un terreau fertile et qu'il faut absolument prendre la balle au bon et faire quelque chose dès le système scolaire. Je l'ai dit dans mon débat tout à l'heure et je suis complètement alignée avec David, ça part de l'école. On ne peut pas uniquement demander au milieu associatif et aux bénévoles d'assumer complètement la structure sportive en France. Ce n'est pas possible.
En tout cas,
mais d'ailleurs Marion, il y a des pistes intéressantes. Tu vois, quand t'as une école communale, etc., etc., on pourrait ouvrir les portes des écoles aux associations. Bien sûr, avec des professeurs des écoles qui superviseraient le projet pédagogique de cette affaire-là, qui seraient les patrons, bien sûr. Mais faisons rentrer les clubs dans les écoles et adaptons-nous à ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, on est dans le pays du rugby, le rugby, ou du canoë, ou du judo,
ou
du tennis, ou du foot, peu importe, mais faisons faire ce sport-là pendant un trimestre, et puis il y a déjà une bonne, et ce sport est fait par des spécialistes, donc de bonne qualité, et puis au terme du trimestre, on passe à un autre sport, puis à un autre sport, et tout ça va affirmer des passions, va affirmer des envies, et va faire du sport correctement dans ce milieu scolaire qui...
quand même, à l'école, il arrive quand même qu'il y ait... des profs de PS qui te fassent, au lycée, on nous fait faire du hand pendant trois mois, et ensuite on nous fait faire un autre sport.
Après, retour d'expérience, j'ai des petites filles, il y en a une qui est en CP, quand il n'y a pas de prof de sport, on ne leur fait pas faire de sport. Hein, et voilà, et c'est comme
mais
ça.
Mais je l'ai dit, Simon, je suis d'accord avec toi, il y a des initiatives ponctuelles et personnelles qui sont liées à des gens qui ont leur métier à cœur, de faire du bon sport à l'école. On ne peut pas le nier, heureusement qu'on a cette population-là. Mais quelquefois, au gré des profs absents, au gré des remplacements qui sont pas faits, au gré d'une activité, du mot sport, de l'éducation physique qui n'est pas affirmée comme un socle de connaissances en tant que tel, avec des vraies notes qui permettent de graver dans le marbre ce mot sport à l'école, on est toujours la dernière roue du carrosse.
Alors,
comme souvent dans toutes les échelles de décision, que ce soit au niveau de l'entreprise, comme au niveau des exécutifs les plus importants, quelquefois, et je le dis, dans certains cas, dans certains exécutifs, le ministre des Sports a été la variable d'ajustement d'un gouvernement, tu vois.
Tu devrais faire de la politique, David. Je ne sais pas si
t'en clair,
si t'as eu l'idée, mais tu devrais faire de la politique.
Non, mais c'est vrai parce que avoir ce type de, d'ailleurs aujourd'hui on s'y reconnaît plus. Il y a l'Agence nationale du sport, il y a le ministère des sports,
il y a beaucoup d'entités,
le Comité national olympique, il y a beaucoup d'entités.
Énormément.
Tout le monde se marche sur les pieds, tout le monde tient la couverture à soi. C'est pas suffisamment clairement défini. Il y a le sport de niveau, il y a le sport de masse, il y a des contrats passés avec les fédés, etc. Tout ça est d'une complexité effroyable. effroyable. Pourquoi ne construisons pas en France une vraie agence, une grosse agence nationale du sport, quitte à supprimer le ministère des Sports, tu vois, simplement en gardant les activités régaliennes pour tout ce qui est le fait de discerner des diplômes, ça peut-être au ministère de l'Intérieur ou du côté du Premier ministre, mais en fait d'avoir un vrai objet fort sport qui puisse avoir suffisamment de moyens et suffisamment de pouvoir pour pouvoir dire demain que la nation est une vraie nation sportive.
David, on va prendre Vincent qui a fait le 32-16, qui attend depuis quelques minutes avec nous dans les GG. Salut Vincent.
Bonjour toute l'équipe des GG du sport.
Salut Vincent.
Bonjour Vincent. Alors, il a la forme Vincent.
Ouais, il a la forme.
Ah
c'est
oui,
bien.
Mais toujours.
La
toujours,
pêche
toujours.
Ce matin. Vincent, qu'est-ce que tu voulais dire sur ce débat? Est-ce qu'on est devenu une nation de sport suite à ces jeux JO?
Non, parce que David et Marion l'ont très bien dit auparavant et Simon également. On peut pas se considérer comme une nation de sport avec un système scolaire qu'on a qui est déplorable. Pour le sport, pour l'accompagnement, comme je dis, j'ai fait du sport au lycée. J'avais des collègues qui étaient en club de sport semi-professionnels, ils n'avaient aucune adaptation ni quoi que ce soit pour pouvoir vivre leur passion à bloc.
Après, il y a des clubs, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus d'ouvertures pour les jeunes aussi qui veulent faire du sport.
Carnet, il n'y a pas de souci, mais le seul problème, c'est que quand on a des mecs qui sont convoqués, parce que j'ai eu le cas d'un mec qui était convoqué en équipe de France, le gars, il est rentré, il a dû rattraper tous ses contrôles, je prends l'exemple tout basique. Alors qu'il n'a pas fait les cours pendant quasiment une ou deux semaines. Mais attendez, on est où? On est dans quel délire? Je vais prendre l'exemple de David. David, ce qu'il disait, les bénévoles. Moi, j'ai commencé le judo après Sydney 2000. Merci, David. Mon entraîneur, je continue de suivre le club. C'était Bruno, je lui rends hommage. Il est toujours entraîneur à ce jour. Avec Patrick et avec JP pour relais. Attendez, il y a eu d'autres personnes quand même qui sont passées entre temps. Il y a eu d'autres personnes, mais personne s'y inscrit. Notre système sportif tient par des passionnés qui tiennent pendant des années. Mais le jour où ces passionnés vont s'arrêter, qu'est-ce que va devenir le sport français? Quand on voit qu'il y a des grands champions, on prend la natation, les deux grandes médailles qu'on a avec Florent Manaudou, il est sorti du Giron français quand on voit sa préparation qu'il a fait. Léon Marchand, il est parti aux États-Unis. Bon, il est entraîné par le roi de la natation, Bob Newman. Mais il a dû partir aux États-Unis.
Tout à fait, ce que disait Marion.
Regardez, je prends l'exemple du tennis. Marion, elle peut en parler. C'est un fiasco ce qui s'est passé. Et pourtant, on a recruté un mec comme Ljubicic, qui était quand même une référence sur le terrain. On fait quoi? Il y a des sports qui ont fait des faillites. Par contre, je rejoins Marion ce qu'elle a dit, on a vu un truc de malade. Moi, j'ai pu le voir à la télé, mais en termes de supporters, pour écouter. Mais c'est un délire.
C'était pas gagné, Vincent, c'est ce que disait Marion. C'était pas forcément
les Français,
gagné avant les JO.
Les Français sont sportifs. Les Français aiment le sport. Mais c'est la France qui se met pas en marche pour structurer tout ça.
Bon, en tout cas, sur le sondage des grandes gueules du sport sur le compte X, la victoire écrasante pour David Douillet, mais en même temps, Simon et Marion,
vous
l'avez rejoint finalement dans son camp.
Oui, mais bon, fallait bien faire un débat.
Et voilà, exactement.
72% pour la team non, nous ne sommes pas encore devenus une nation de sport et il faudra voir dans 4 ans à Los Angeles, on aura l'occasion de refaire le débat. Merci beaucoup Vincent, en tout cas, d'être passé. Tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Les GG qui reviennent avec la punchline du jour, elle est signée du patron de l'équipe cycliste Visma qui ne comprend pas qu'on veuille supprimer les oreillettes. Et oui, l'UCI essaye de limiter au maximum l'emploi des oreillettes. On en parle dans un instant. Restez avec nous, les grandes gueules reviennent tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Elles sont là, elles sont de retour après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. Les grandes gueules du sport, dès 9h désormais en direct. David Douillet, Marion Bartoli, Simon Dutin. Si vous avez raté le début, il y a le podcast à aller écouter. On salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment en podcast. Dans un instant, le zapping des GG, deuxième version avec, je vous l'avais promis au programme, notamment la folle journée de Gaël Monfils à Cincinnati. On vous raconte tout ça. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline des GG. Elle est signée Richard Plugueux, le patron de Visma, l'équipe cycliste de Jonas Vingegaard.
RMC, la punchline GG.
L'UCI ne peut pas continuer avec cette interdiction. En limitant l'usage des oreillettes, elle transforme la course en une véritable farce, comme nous l'avons vu aux Jeux Olympiques.
Richard Plugueux, bien aidé de Siri, que l'on remercie. Punchline qui fait suite à plusieurs chutes lors du Tour de Pologne mercredi dernier, notamment une chute impliquant le Français de Cofidis Nicolas de Beaumarchais, qui serait resté près d'une minute tout seul allongé par terre avant d'être emmené à l'hôpital. La faute à l'absence d'oreillettes, d'après donc le patron de Visma, comme lors des JO, comme il le dit, où les coureurs ne pouvaient pas appeler leur voiture pour une banale assistance. David Lapartien, patron de l'UCI, n'a pas tardé à répondre sur les réseaux sociaux en expliquant que les chutes de ce mercredi au Tour de Pologne n'ont rien à voir avec l'absence d'oreillettes. Et vous le savez, hein, il parle directement au patron de Visma, les coureurs ont été pris en charge comme d'habitude. Notre priorité à l'UCI est la sécurité. Vous voulez garder les oreillettes pour donner des instructions, pas pour la sécurité. L'UCI, qui teste depuis le début août la réduction de l'utilisation des oreillettes, procède à des tests comme notamment seuls deux coureurs d'une équipe qui peuvent en porter pour communiquer avec leur directeur sportif. On verra si ça s'étend évidemment sur les autres courses de l'année. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les oreillettes dans le cyclisme? Vaste débat, oui ou non, David Douillet.
Bah moi je suis assez mesuré là-dessus. Je dirais plutôt non, j'avais l'impression que ça dynamisait un peu le.
Ok. Simon Dutin.
Passer sur la route, quoi.
Plutôt oui, il faut limiter leur utilisation.
Mario Bartoli.
Pareil, plutôt oui avec une limitation d'utilisation.
Alors plutôt non, David. Vas-y, tu peux développer.
Bah plutôt non, parce que on voit que sans oreillettes, et on l'a vu sur certains tests, les coureurs peuvent aussi aseptiser une course de la même manière, voilà, qu'avec des oreillettes quand il s'agit de course de sprint, enfin d'étape de sprint ou autre.
Ouais. C'est pas forcément les oreillettes qui sont en cause, c'est ça que tu veux dire. Hein.
Voilà, c'est ça.
Parfois, c'est juste la stratégie des directeurs sportifs.
C'est quand même beaucoup plus avec les oreillettes.
La stratégie, elle est toujours faite. Elle est jamais faite au cours de la course. Alors, elle peut varier au cours de la course, mais la stratégie, elle est faite dans le bus avant de démarrer. Et en général, elle est plutôt respectée. Après, l'oreillette permet de modifier les stratégies pour optimiser ce qui a été dit ou réagir en temps réel, parce que le coureur peut pas voir ce qui se passe 6 kilomètres devant ou 3 kilomètres devant ou derrière, etc., etc. Et je trouvais que ça donnait un peu plus de vie à l'intérieur de la course. Maintenant, ce qui me pose un problème, si on va dans l'aspect sécurité ou sécuritaire, c'est plutôt les GPS, plutôt les écrans qui sont sur les vélos qui me posent un problème. Parce que faisant du vélo moi-même ou même en moto, hein, quand vous regardez un écran, vous avez pas les yeux sur la route, voilà. Et ça, à mon avis, c'est un problème qui est plus important que la problématique de l'oreillette, je pense. Voilà, c'est tout. Quand on n'a pas le regard là où il doit être, c'est-à-dire devant, c'est préjudiciable. Je serais plutôt favorable à supprimer tout type d'écran pour que les yeux soient là où ils doivent être, plutôt que de supprimer les oreillettes, c'est mon avis.
Simon.
Moi, je dois d'abord dire que j'ai beaucoup aimé la réponse de Lapartien à Plugueux.
Oui. D'ailleurs, c'est assez rare, hein, qu'il réponde directement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est un sujet qui lui tient à cœur.
Et je pense qu'il a raison, que tu vois, la sécurité à la Bondo, Plugueux, ce qu'il aime pas, c'est de se faire battre, se faire damer le pion par les autres équipes. La Visma, la toute puissante Visma, elle aime pas quand ça se passe pas comme elle a prévu. C'est l'équipe qui planifie tout, justement, qui a enlevé un petit peu tout romantisme dans le cyclisme, qui a les mecs les plus forts, qui contrôlent la course, et voilà. Donc dès que la course c'est un petit peu anarchique. Oui, bah justement, il y a qu'à voir le narratif qu'ils nous ont sorti, essayer de nous expliquer que c'est la beauté du cyclisme, tout ça. Bon, moi, je pense que quand il n'y a pas d'oreillette, on a des courses un peu anarchiques. On se souvient du championnat de France 2023, je crois, avec Madouas qui avait remporté une course absolument fantastique. On l'a vu au jeu. Moi, je suis pas d'accord avec Plugueux. On a eu une course fantastique.
Bon, là, parce que tu te places évidemment du point de vue du téléspectateur, et on est tous d'accord avec toi.
Bah, exactement, mais
quand on est coureur, peut-être que les oreillettes peuvent servir à quelque chose.
Je pense qu'il y a des équipes moins puissantes que la Visma qui sont contentes attendre que les cartes soient un petit peu rebattues et que les probabilités de gagner soient un peu moins favorables aux meilleures équipes, aux équipes les plus puissantes. Et donc, en lisant les papiers là, cette semaine suite à cette histoire, bon, il y a quand même des pistes qui pourraient être super. Moi, j'étais assez assez curieux de voir ce que ça pourrait donner. Tu sais, il serait question de tester. Ah, vous voulez des oreillettes ? Ok, mais un seul canal de diffusion. Ouais. C'est-à-dire tout le monde se
tout
parle.
Tout le monde a la même chose.
Ah, ça pourrait être un massacre.
Ça
absolu.
Pourrait être n'importe quoi.
Ce serait génial. Mais bon, et je crois qu'on pourquoi pas
mettre RMC dans les oreillettes comme ça, c'est réglé.
Tester des trucs parce que d'autres pistes me paraissent moins, je sais pas, moins audacieuses comme celle qui consisterait à laisser deux coureurs par équipe
utiliser
des oreillettes. Moi, je trouve que ça revient quand même un petit peu au même. Voilà, pourquoi pas cette solution là de un seul canal, puisque si certains veulent continuer à donner des consignes, ils seront libres de le faire, mais ça changera peut-être un petit peu la donne si tout le monde entend les consignes. Voilà.
Après, on pourrait aussi faire. Faudrait demander aux professionnels que nous sommes pas, mais faudrait peut-être poser la question. Est-ce que on pourrait autoriser les oreillettes sur les grands tours à étapes plutôt et ne pas les autoriser sur des courses d'une journée.
Classique.
Sur les classiques, tu vois. Ouais. Donc ça c'est une vraie question.
Après le débat s'est fait aussi sur le Tour de France parce qu'on a eu des étapes très très ennuyeuses et certains disaient que c'était à cause des oreillettes, Marion.
Non, elle l'aurait été de toute manière. Tu sais, toutes les étapes de sprint en fait, voilà. On le sait, quoi.
De toute façon, c'est l'un des plus vieux débats, franchement, dans le monde de la petite raide. On sait très bien ce débat des oreillettes. Mais après, moi, quand je lis justement les déclarations de beaucoup de coureurs regrettent ces oreillettes parce qu'en fait, on leur donne systématiquement les consignes de se replacer très régulièrement, notamment lors de passages sensibles, alors qu'eux ne feraient pas ça. Ils préfèrent largement qu'on leur donne vraiment les rênes de la course dans le feu de l'action et qu'ils prennent leurs décisions. Finalement, on se retrouve avec des oreillettes, des coureurs qui sont robotisés, qui sont téléguidés à distance et on crée des situations de danger artificiel. Et beaucoup de coureurs justement se plaignent des oreillettes qui leur créent un stress vraiment énorme parce qu'on leur dit replace-toi alors qu'ils n'ont pas envie de faire ça et d'un coup t'as un espèce de groupement comme ça de coureurs qui ont envie de se replacer et ça peut au contraire créer des chutes. Et lorsque j'entends justement Marc Madiot qui est un de nos confrères et franchement je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, prenons un exemple concret, regarde la chicane à l'entrée de la Trouée d'Arambert. Sur Paris-Roubaix.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va dire à tout le monde, à tous les coureurs dans les oreillettes ? On va dire sans exception, replacez-vous, faut aborder la chicane en premier, replacez-vous. Et du coup, en fait, tu sais quasiment à l'avance ce qui va se passer quand tu es téléspectateur. Et là où je rejoins complètement Simon, c'est que justement, la course des Jeux Olympiques était beaucoup plus incertaine et on se retrouvait à être beaucoup plus captivé par tous ces moments. Alors, la sécurité à la bandeau...
Avec un peloton moins important quand même, Marion. Ouais, hein. Il y avait moins de coureurs aux Jeux Olympiques.
Mais bien
c'est aussi
sûr.
Une donnée quand
non,
même.
Mais,
hein.
Non, mais bien sûr.
Ce sont des courses d'un jour. Sur les courses d'un jour,
c'est sont des classiques,
mal,
ce sont des classiques ou des courses d'un jour. Mais après, pour moi, quand tu regardes la sécurité à la bandeau, la sécurité aujourd'hui, c'est lié à des vélos qui sont de plus en plus performants, à des cadres qui ont aucune souplesse, et il suffit que la route soit un petit peu cabossée ou il y ait quelque chose sur la route, et ça pardonne pas quasiment. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des braquets qui sont énormes, t'es sur des vitesses, sur du plat, mais c'est de la folie. Donc tu sais très bien que avec des vélos qui sont de plus en plus performants, avec des systèmes de compteurs, tu parlais des GPS, ils ont aussi des compteurs avec des systèmes de watts, et on voyait très bien beaucoup de coureurs qui étaient en train de regarder systématiquement leur performance en termes de watts sur le vélo, tu te retrouves avec des vélos qui deviennent des machines à danger. Donc c'est très très compliqué pour les coureurs aujourd'hui d'arriver à apprivoiser ce vélo-là et de pas avoir des incidents dus à la sécurité parce que ça va beaucoup trop vite.
Je vais faire un mauvais parallèle.
Rapidement, parce qu'on me dit dans l'oreillette, faut aller vite. Hein.
Je sais, mais je vais aller vite, aussi vite que la F1, parce que je vais faire le parallèle avec la F1, tu vois, où ils sont connectés avec leur ingénieur. Il y va aussi de la personnalité du coureur. Quand tu vois un Verstappen, quand on voit balader son ingénieur parce qu'il lui donne des infos, etc., puis il a envie de faire autre chose, et il fait autre chose, le mec, ben voilà, il est quand même, il faut que le coureur comprenne, malgré tout que c'est lui qui a le cul sur le vélo, que c'est lui qui a les mains au guidon et que c'est lui qui doit décider en dernier ressort. Et que c'est pas au directeur de course qui lui est dans sa voiture, qui sent pas les choses, qui peut pas tout sentir. Celui qui a le plus d'infos, c'est le coureur, c'est le pilote aussi dans une F1 et qui prend sa décision. Et on a vu Verstappen fulminer, pester, engueuler son ingénieur et faire ce qu'il avait envie de faire au moment où il avait envie de le faire. Voilà, c'est tout. À un moment donné, mais ça apporte quelque chose quand même parce que on peut te donner des indications, notamment sur un type de vent rencontré à tel endroit qui va faire telle ou telle chose, etc. Ça te permet de t'économiser, ça permet de rajouter un peu de piment aussi, tu vois, à la course. Et je pense que si les coureurs étaient un peu plus, alors je sais que c'est difficile de contrarier celui qui te paye, évidemment, surtout lorsque t'es un porteur de bidon, mais malgré tout, ça devrait être les coureurs qui devraient décider.
Tu vois, regarde David, sur Grand Wevel Game, sur une portion plate avec du vent portant, t'étais à plus de 70 km/h et en permanence. T'imagines, il roulait en 62-11 en braquet. Il suffit qu'il y ait un petit trou dans la route et qu'ils n'arrivent pas à le voir parce qu'ils regardent leur écran et leur GPS, et c'est fini.
Alors, en tout cas, certains mettent les oreillettes. Moi, c'est ce que je vais faire aussi, parce que Kylian Verhoeven, qui est en régie, notre producteur, n'arrête pas de me dire stop. Donc voilà, ça suffit les oreillettes aussi pour nous. Il n'y a pas de danger, Kylian, t'inquiète pas. On fait ce qu'on veut dans les GG. Voilà, il vient de me dire, arrête de me balancer. Ben voilà, c'est fait. Allez, 10h48, on revient dans les grandes gueules avec un nouveau zapping. On va parler de Gaël Monfils, parce que lui, il a gagné contre Alcaraz, et puis il a perdu contre Runeux, tout ça en quelques heures. Voilà, on vous explique tout. C'est dans le zapping dans un instant sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h50, vous écoutez les grandes gueules du sport. Simon Dutin, Mario Bartoli, David Douillet ce matin. Dans un instant, les GG qui vont passer la seconde. Et on va parler de l'OM qui lance son championnat aujourd'hui à Brest avec un nouveau coach, un effectif quasiment intégralement modifié. Est-ce que De Zerbi a eu raison de venir à l'OM? On vous attend au 32-16. Mais d'abord, c'est l'heure d'un nouveau zapping dans les GG.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
On ne pouvait pas passer à côté de cette info. Mon fils qui bat Alcaraz, puis perd en huitième de finale lors du Masters 1000 de Cincinnati. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
Je laisse.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
Mario Bartoli.
Mais bien sûr, je m'en fous pas.
Gaël Monfils qui a dû enchaîner deux adversaires en quelques heures. Il a remporté la fin de sa rencontre contre Alcaraz en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Il n'a pas réussi ensuite à battre le Danois Runeux en huitième de finale de ce tournoi américain. Il a été battu en 3-7, 6-3, 3-6, 4-6. Marion, voilà, on te laisse la parole parce que c'est une sacrée journée pour Gaël Monfils quand même, pour lui.
Non, puis bien évidemment, et surtout, il a commencé son tournoi en devant jouer Popirine, qui venait de gagner le tournoi de Montréal, qui est un gros Master 1000, pardon. Alors, même si après les Jeux Olympiques, le tableau était un petit peu décimé, d'arriver quand même comme ça au premier tour, devoir jouer un joueur aussi fort et qui allait arriver à bas, c'était déjà un réel exploit. D'ailleurs, il enchaîne en battant Alcaraz avec un match interrompu par la pluie sur la fin du deuxième set dans le tie break où il mène 3 points à lui de servir et puis à la reprise, il perd son point de service, ça fait plus que 3-2 et service à suivre pour Alcaraz. On se dit, oh là là, ça va être compliqué. Et puis finalement, il arrive à s'accrocher, à gagner le tie-break, à gagner le troisième set. Après l'enchaînement derrière de jouer Holger Rune, qui est beaucoup plus jeune que lui, dans la même journée, quelques heures après à Cincinnati, il fait extrêmement chaud, extrêmement humide. Il a un petit peu patiné au début du deuxième après avoir remporté le premier set, mais c'est un tournoi qui est extrêmement convaincant pour Gaël, qui reprend la forme avant l'US Open. On l'avait quitté après les Jeux Olympiques où il l'avait dit lui-même, son objectif déjà c'était d'être là et effectivement sur terre battue avec... c'est son âge aujourd'hui avancé, enfin en tout cas pour un joueur de tennis c'est plus compliqué sur une surface lente avec des filières plus longues, mais là on voit sur un dur américain plus rapide, c'est un joueur qui est encore capable d'aller faire de réelles performances et d'aller titiller les meilleurs. Donc c'est vraiment que du bonus pour lui avant l'US Open, une très belle victoire. Alors bien sûr pour Alcaraz il a énormément enchaîné, il y avait certainement un petit peu de fatigue, mais une victoire face à un tel joueur, ça se prend quel que soit le niveau de la compétition et quel que soit le tournoi.
9e fois qu'il bat un top 3 mondial, Gaël Monfils. David.
Non, mais je trouve que Marion était tout à fait. Moi, ça me fait toujours plaisir quand un Français a un sursaut de talent et Gaël, il en est plein et fourbu et je pense que si il était plus linéaire dans sa carrière, ça aurait fait un. Enfin, j'aimerais qu'il soit un des ténors du top 5 du tennis mondial. Il en a les capacités, c'est mon avis.
Voilà, c'est peut-être un peu tard maintenant.
quand même.
Malheureusement.
Oui, mais parce que il faudrait jouer une saison complète et qu'à 37 ans, il va pas jouer une saison complète. Mais ce qui est très intéressant de voir quand même chez Gaël, c'est qu'il a encore la capacité, et je rejoins complètement David, sur un match, sur un enchaînement de matchs ou sur un tournoi, à aller vraiment titiller les meilleurs et aller leur poser des problèmes. Et ça, très peu de joueurs ont la capacité de le faire. Il y a beaucoup de joueurs même qui n'arrivent jamais à atteindre ce niveau de jeu. Donc, pour voir Gaël être capable de performer comme ça encore à son âge, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et sur Rune, franchement, oui, ok, il s'incline, mais il a plein de balles de 2-0 au troisième set. Il est un petit peu mort physiquement, mais s'il est un tout petit peu plus frais, il peut parfaitement aller remporter ce match aussi.
Alors, je sais ce qui intéressait Simon, et je suis sûr qu'il m'aurait dit qu'il ne s'en foutait pas. Jean-Paul Loth a pris sa retraite à 85 ans, tu le sais,
oui,
ça quand même.
Il a commenté son dernier Simon, match, Jean-Paul.
Hein, c'était le 4 août dernier, son dernier match, la finale des Jeux Olympiques. Je sais que tu t'en fous pas de Jean-Paul Loth.
Ah, bon,
comme ça. Et bon.
Et passe.
Voilà, s'il nous écoute, Jean-Paul Loth, on l'embrasse.
On l'embrasse,
bien sûr,
évidemment.
C'est une légende.
Affectueusement.
Surtout pour son dernier match, un match légendaire.
Bah, en plus,
donc
voilà.
La boucle était parfaite.
Jean-Paul qui joue beaucoup au golf, désormais, qu'on croise parfois sur les.
De toute façon, il y a des liens, hein, tennis, golf, tout ça. Voilà. On revient dans un instant dans les grandes gueules du sport. Voilà, petit zapping, mais il fallait parler de Gaël Monfils. Je voulais vous parler aussi de DAZN, mais quelque chose me dit qu'on risque d'en reparler à 11h45.
Ah
parce
bon
que. Elle est bien partie,
Marion Bartoli.
Elle est bien partie.
Est-ce que je serai en tête ?
On fera un point sur les débats des GG contre-attaque dans un instant. Restez avec nous parce qu'on va également revenir sur notre Ligue 1 avec le débat autour de l'Olympique de Marseille. Et Roberto De Zerbi, est-ce qu'il a eu raison de venir à l'OM ? 32-16 pour nous rejoindre. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.